السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Mes chers frères en islam, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne la possibilité en ce jour, en ce mois d'octobre 2009, de nous réunir dans cette mosquée de Atiyabul Masajid, dans cette ville, on pourrait dire bénie, hein, durant ce séjour, cette ville bénie de Saint-Pierre, pour le déroulement de la seconde édition du rendez-vous des jeunes 2009. Nous remercions Allah Ta'ala et nous demandons à Allah de faciliter, d'envoyer son aide, sa nusra, pour que les objectifs de ce rassemblement soient atteints, Inch'Allah. Ensuite, nous remercions du fond du cœur l'équipe qui gère ce masjid. Nous parlons bien sûr des membres du comité, ainsi que les différentes associations, les bénévoles qui travaillent pour la tenue et le bon déroulement de cette manifestation, de ce séminaire. Qu'Allah Ta'ala accepte les efforts de chacun et qu'Allah les récompense pleinement dans ce monde et l'au-delà. Alors mes chers frères, l'année dernière, en 2008, lors du premier RDJ, il y avait environ 400 voire 450 jeunes de toute l'île qui s'étaient déplacés pour cette occasion. Cette année, Inch'Allah, il y en a autant, voire un peu plus, entre 500 voire 600 jeunes âgés de 15 à 25 ans, ces jeunes qui sont, qu'on appelle, dans la fleur de l'âge, ces jeunes qui vont consacrer le dernier week-end de ces vacances pour assister donc à cette réunion, à ce séminaire. Mes chers frères, c'est une génération qui vit dans un contexte, qui vit dans un cadre où la pratique de la religion devient de plus en plus difficile. Ils vivent dans un monde de fitna, un monde où les sources de tentation les assaillent de partout. Et mes chers frères, ce sont là des fitna, des sources de péché, de tentation qu'aucune génération avant eux n'a connues. Ni nos parents, ni nos grands-parents n'ont connu un monde dans lequel ils étaient autant entourés, aussi assaillis par ces sources de péché, tout ce qui appelle vers les tentations. Et ces fitna, je vous assure, c'est comme si qu'on prenait un livre sur les petits signes de Qiyama et qu'on lisait. On voit exactement ce que Nabi Karim alayhi salatu wassalam avait annoncé il y a 1500 années en termes de corruption, de dépravation, de mœurs, de mauvaises habitudes, de banalisation des péchés. Nous voyons malheureusement année après année, parfois mois après mois, tous ces petits signes se concrétiser. Et cette nouvelle génération, elle est en train de grandir, d'évoluer dans ce monde, dans le pire des mondes certainement, que l'humanité a connu depuis la venue du prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et quand nous voyons la situation dans laquelle ces jeunes vivent, et que nous voyons 500 jeunes en 15 et 25 ans qui se mobilisent pendant 2 jours et demi, voire 3 jours, pour rester à la masjid, uniquement pour se remettre en cause, pour se rapprocher d'Allah, pour se consacrer à leur foi, ce qui est une preuve du souci qu'ils se font pour leur iman, mes chers frères, moi je vous le dis, c'est énorme. C'est une génération extrêmement courageuse. C'est peut-être la génération la plus courageuse que l'île de la Réunion n'a jamais connue. C'est une génération dévouée qui, malgré ce contexte difficile, fait des efforts pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces jeunes, mes chers frères, ce sont les composants de la communauté musulmane de demain. Ce sont aussi les parents de demain. Bientôt, ils auront, bientôt, vous aurez cette lourde tâche, ce fardeau de transmettre le flambeau du iman, le flambeau de l'islam à leurs enfants, pour former après eux une nouvelle génération de musulmans qui adorent Allah et qui suivent le mode de vie de Nabi Karim Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Alors mes chers frères, le but de ce rassemblement, de ce RDJ 2009, est de rappeler aux jeunes, aux moins jeunes aussi, parce que le programme sera ouvert à tout le monde, Inch'Allah, on l'expliquera, de rappeler à ces personnes ce qu'Allah Ta'ala attend de nous durant les quelques années qu'il nous a données dans cette vie de ce monde. Comment adorer Allah? Comment faire pour qu'Allah Ta'ala soit satisfait de moi? Qu'est-ce que je dois faire comme action pour qu'Allah m'accepte? Comment passer ma jeunesse? Qu'est-ce que je dois faire en tant que jeune, en tant qu'adolescent, pour faire partie le jour de la résurrection de ces personnes qui auront l'honneur la chance d'être appelé sous l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir passé leur jeunesse dans l'obéissance d'Allah. Qu'est-ce que moi je dois faire en tant que jeune Dionysien, en tant que jeune Saint-Pierrois, en tant que jeune Saint-Louisien, en tant que jeune de Salazie, parce qu'il y en a eu qui sont venus jusqu'à dans les écarts, alhamdulillah, qu'est-ce que je dois faire pour que le jour de la résurrection, Allah Ta'ala trouve en moi les mêmes qualités qu'il a trouvées chez les jeunes Sahaba, chez les jeunes descendants des Sahaba, et qu'Allah m'appelle au même titre que les jeunes Sahaba pour être sous l'ombre de son trône. Parce que cette promesse, elle nous est accessible. Cette promesse est accessible à n'importe quel jeune jusqu'au Qiyamah. Nous ne sommes pas privés de ces vertus. Alors, il y a une recette magique. Que dois-je faire en tant que jeune pour avoir cet honneur le jour de la résurrection? Comment je dois utiliser mon temps entre l'adoration d'Allah le Très-Haut et en même temps coordonner cela avec ma vie d'étudiant ou alors ma jeune vie professionnelle? Mes chers frères, ce sont là des questions extrêmement importantes. Nous devons de les traiter, de les élucider, parce que le jour des comptes, nous serons questionnés exactement sur les points que nous avons cités. Allah nous vient en aide, mes chers frères. Et un des points également importants sur lequel nous aimerons insister dans ces quelques minutes avant le khutbah, un point, une action qui pèsera certainement le plus lourd dans la balance lorsque les actions de l'être humain seront pesées au millième près. Cette action qui sera certainement, comme notre prophète l'a dit, une des actions les plus lourdes, les plus importantes, c'est comment, en tant que musulman, je dois me comporter avec les autres. Quelles doivent être mes relations avec mon père, avec ma mère? Comment est-ce que je dois vivre dans la société? Quelle image dois-je donner aux personnes qui cohabitent avec moi? Comment dois-je agir avec mes proches, avec ma famille, avec mes voisins, avec les personnes que je connais et également les personnes que je ne connais pas? En d'autres termes, comment agir pour que les relations soient au mieux entre les différents composants de la société d'une manière générale et de toutes les générations? Alors, mes chers frères, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a malheureusement une cassure énorme entre les trois générations. Il n'y a plus de lien, ou pratiquement plus de lien, entre les trois générations. Quand je parle de trois générations, c'est la génération des jeunes, de 15 à 25, voire 30 ans. Et la deuxième génération, ce sont les parents, les adultes, à partir de 30 ans jusqu'à 50, voire 55 ans. Et la troisième génération, c'est-à-dire les seniors, on appelle la troisième jeunesse, les anciens, 55-60 ans, jusqu'à Ila Masha'Allah. Malheureusement, il n'y a plus de lien qui unit ces trois générations. Beaucoup de jeunes, c'est un constat, c'est une réalité, ne respectent plus, ne considèrent plus leurs parents. Et en même temps, ils ne s'intéressent pas à la première génération. Ils ne s'intéressent pas aux grands-parents, aux vieux, comme on pourrait dire, aux anciens. Dans l'autre sens, beaucoup de parents, beaucoup d'adultes ne font pas confiance aux jeunes. Et ça, c'est dommage. Beaucoup de parents, beaucoup d'adultes n'essaient même pas de comprendre, ne font même pas l'effort de se rapprocher de leurs jeunes et se contentent de les fustiger, de dire que ce sont des délinquants, que c'est la pire des générations qu'on n'a jamais connue. Ben Mama et Denejoie n'écoute pas. Ben Mama et Denejoie fait n'importe quoi. Mais très souvent, ces parents n'ont même pas réfléchi. Qu'est-ce que je peux faire en tant que père, en tant que mère, pour me rapprocher de mon jeune, de mon enfant qui a 18 ans, qui a 20 ans, pour essayer de comprendre dans quelle spirale il est en train d'évoluer, quelle spirale il est en train de subir. Et en même temps, et ça c'est certainement le plus malheureux, cette génération de parents, d'adultes, ne se font plus non plus de soucis pour leurs parents à eux, pour les anciens, pour les gens plus âgés. Alors que, mes chers frères, l'islam, à travers des hadiths extrêmement précis, propose un idéal en termes de relation entre les trois générations. Tout d'abord, la relation brièvement entre les jeunes et les parents. Il y a malheureusement une différence trop énorme, il y a un trop grand décalage entre ce que nous constatons, ce que nous voyons de visu, ce que nous entendons en 2009 en termes de relation entre adolescents et pères et mères et leurs parents, et ce que le Coran prône et ce que notre prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné en termes de relations entre enfants et parents. Dans la société actuelle, les parents ne sont que des responsables légaux, des tuteurs dont le statut, dont les droits prennent fin à la majorité de leurs enfants. C'est-à-dire, quand mon fils, quand ma fille aura 18 ans, je n'aurai plus de droit sur mon fils et ma fille. Ça, c'est la conception du parent dans les textes de loi, dans la société. Et moi, en tant que jeune, lorsque je serai âgé de 30, de 35 ans, lorsque je serai marié, lorsque j'aurai mon premier emploi, et que mon père ou ma mère sera âgé de 70 ans, de 75 ans, voire plus, dans cette situation, c'est ce que la société nous enseigne malheureusement, hein, il n'y a aucun mal, et c'est même très tendance. Lorsque je serai trop occupé par ma nouvelle vie de famille, par mon nouvel emploi, et lorsque je ne verrai plus d'intérêt de m'occuper de mon père et ma mère, qui ont déjà tout donné pour moi, qui ont déjà consacré leur temps, leur vie, leurs biens, leurs efforts pour moi, alors, lorsqu'ils ne me seront plus utiles, lorsque je vais voir mes parents comme un fardeau, je ne vois plus aucun mal à les placer maintenant en maison de retraite. On appelle ça un mouroir également. À cet endroit où ils mourront tranquillement, à l'abri des regards, où ils mourront sans gêner les gens qui travaillent. C'est là une image un peu caricaturale, un peu crue, mais malheureusement, c'est la réalité. C'est cette conception de la relation parent-enfant que la société nous inculque. Alors que notre prophète, alayhi salatu wassalam, nous a enseigné ce hadith merveilleux. « Ma min mu'minin lahu abawan, fa yusbihu wa huwa muhsinun ilayhima » Illa fatahallahu lahu babayn min al-jannah. Un musulman qui a des parents qui sont vivants, ses parents se réveillent le matin et ses parents sont satisfaits de moi, mon père est satisfait de moi, ma mère est satisfaite de moi, alors Allah Azza wa Jal m'ouvre deux portes du paradis. Je n'ai rien fait encore, je n'ai pas fait tahajjud, je n'ai pas fait ishraq, je n'ai pas fait khatm al-Qur'an, juste mon père et ma mère le matin ils se réveillent et ils voient leur fils Ismaïl, Ibrahim, Ilyas. Et ils sont satisfaits de moi. Allah Ta'ala ouvre pour moi, Ibrahim, deux portes parmi les portes du paradis. Mes chers frères, le fait d'agir correctement avec les parents, cela a été évoqué dans le Taurat, dans le Zabur, dans le Injil, dans le Coran, à tous les prophètes qui sont venus de ce dunya, dans les trois religions monothéismes, le judaïsme, le christianisme et bien sûr l'islam. La relation correcte, parfaite, respectueuse entre le jeune, entre les enfants et leurs parents, cela fait partie de la fitra, cela fait partie de l'innéité. Il n'y aurait même pas eu besoin de texte pour nous faire comprendre. Mais malheureusement, ces valeurs humaines, ces valeurs primaires, nous les avons perdues. Nous, jeunes musulmans, nous les avons échangées contre des valeurs qui sont certes plus tendances, qui sont plus en adéquation avec la société, avec cette nouvelle génération en l'an 2000-2009. Mais ces valeurs sont tellement, tellement éloignées de l'enseignement du Coran et éloignées de l'inéité de la nature humaine universelle. Nous pouvons passer des heures sur MSN, comme on le rappelait la dernière fois. Un jeune passera des heures sur MSN, peut-être même des moins jeunes, communiquer avec des gens que je ne connais peut-être même pas, que je n'ai peut-être jamais vus. Mais mon voisin de palier, je ne sais même pas comment il s'appelle. Je ne sais même pas s'il va bien, s'il mange bien, s'il a des dettes, s'il est malade. Est-ce que c'est ça, des valeurs humaines? Je n'ai aucun mal à me faire des milliers d'amis sur Facebook. Je vais peut-être accepter des demandes d'amitié venant du monde entier. Je ne refuserai jamais une demande d'amitié pour ne pas froisser la personne en face. Mais paradoxalement, en même temps, au-delà de cette relation virtuelle, j'oublie ma mère qui m'a enfanté, qui m'a élevé. J'oublie mon père qui a transpiré, qui a sué pour me donner des conditions de vie correctes lorsque j'étais jeune. Est-ce là, mes chers frères, des valeurs qui sont en adéquation avec la nature humaine avant tout et avec les valeurs qui sont transmises par le Coran? Et une preuve évidente sur le côté sensé et rationnel et parfait de notre din de l'islam qui régit ma relation entre moi et mon Rab, mon Seigneur, également ma relation entre moi et l'autre, mon prochain dans la société, ce hadith exceptionnel dans lequel notre prophète alayhi salatu wassalam dit فَلْيَعْمَلِ الْعَاقِ مَا شَاءَ أَنْ يَعْمَلْ فَلَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةِ. Ce musulman qui désobéit à ses parents, qu'il fasse ce qu'il veut, il peut faire autant de tahajjud, autant de namaz, autant de umrah, autant de hajj, autant de khatm al-Qur'an, autant de dhikrullah, si son papa, si sa maman est mécontent de ce jeune, de cet homme, même si c'est une personne qui a 40 ou 50 ans, cette personne n'accédera jamais, de jamais au paradis. Le prophète a dit, falan, falan yadkhul al-jannah, il n'accédera jamais au paradis. je peux faire autant de bonnes actions. Je peux être un exemple, un modèle dans les ibad, dans la longueur de ma barbe, dans la blancheur de mes vêtements, dans mes actions pour la communauté, pour la société. Mais si mes parents ne sont pas satisfaits de moi, Allah ne sera jamais satisfait de moi. Je n'aurai jamais le iman complet. Et notre prophète nous a dit, cet homme n'accédera pas au paradis, sallallahu alayhi wa sallam. Et retenons ce hadith, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui a obtenu le contentement de ses parents, il a obtenu assurément le contentement d'Allah. Et celui dont les parents sont mécontents, assurément, Allah Azza wa Jal sera mécontent de ce musulman. Il y a une anecdote qui est merveilleuse, mes chers frères. Nous devons le mémoriser. Cette parole de Saïd ibn al-Musayyib, non, de Muhammad ibn al-Munkadir, rahimahullah, tabi'in, il dit que, on dira en français pour être plus rapide, je passais mes nuits à peser les pieds de ma mère, c'est-à-dire à masser les pieds de ma maman, alors que mon frère passait ses nuits à faire le tahajjud. Jamais je n'échangerai les nuits de mon frère contre mes nuits. Je suis persuadé qu'en pesant les pieds de ma maman toute la nuit, j'obtiens plus de récompenses, je me rapproche plus d'Allah, je me rapproche plus du paradis que mon frère qui est en train de passer ses nuits dans le tahajjud. Mes chers frères, en termes de relations également, la relation que nous devons avoir avec les anciens, avec les premières générations, lorsque le prophète a.s. dit, ne fais pas partie de nous celui qui n'a pas de pitié pour les plus petits et qui ne respecte pas les anciens, mes chers frères, c'est un hadith magique qui nous donne la recette pour unir les trois générations, pour qu'il y ait une symbiose, une ambiance exceptionnelle, exemplaire, une mahabba, une entente parfaite en toutes les couches de la population, entre toutes les générations. Lorsque Ibn Abbas nous dit al-barakatu ma'a akabirikum, la bénédiction, vous trouverez la baraka en étant proche des anciens, en étant proche des anciens. Notre prophète nous dit, ne fait pas partie de l'islam celui qui n'a pas de respect pour les anciens, que ce soit des membres de la famille, que ce soit des musulmans, que ce soit des gens que nous connaissons ou des gens que nous ne connaissons pas. Également, en termes de relations, il y a également un côté à parfaire que nous ne connaissons pas trop. La relation maintenant entre parents et enfants. Très souvent, ce sont les parents qui se plaignent de leurs enfants. Mais il ne faut pas oublier qu'en amont, il y a l'éducation. Il y a en amont l'éducation que les parents vont donner à cet enfant. Et c'est à partir de cette éducation que mon fils ou ma fille agira avec moi quand ils seront plus grands. Le respect des enfants envers les parents, on est tout à fait d'accord. Mais avant ça, il y a un rôle important de la part des parents. Leur mission d'éducateur par rapport à leurs adolescents de 0 à 14 ans. Une éducation qui passe par le discours, mais également par l'exemple que moi, en tant que père, ou que ma femme, en tant que mère, va donner à mes enfants. Et cette éducation, cette transmission de iman, de comportement, de akhlaq, c'est un amana, c'est un dépôt, c'est un devoir. Vous êtes tous des bergers. Kullukum ra'in wa kullukum mas'oulun an ra'iyati. Vous êtes tous des bergers, ô parents, et vous serez tous questionnés à propos de vos troupeaux. Et c'est là une loi de responsabilité. Celui qui s'y soustrait verra les conséquences de le dunya. Quand mon enfant sera âgé de 18 ans, il ne m'obéira pas. Si je n'ai pas donné l'éducation correcte à mon enfant, lorsqu'il sera adulte, comme on a dit tout à l'heure, il ne viendra même plus me rendre visite. Lorsque moi j'aurai 80 ans, j'aurai 75, 80 ans, mon fils ou ma fille ne verra aucun mal à me placer maintenant dans une maison de retraite. Et le jour de la résurrection, une question sera posée. Inna Allah sa'ilun kulla ra'in amma star'ahu ahafira dhalika am dayya'a. Allah Ta'ala demandera à chaque personne des questions concernant les gens qui étaient sous sa tutelle. Est-ce qu'il s'est acquitté cet engagement? C'est-à-dire, moi, en tant que parent, ai-je donné l'éducation correcte à mes enfants ou alors je ne l'ai pas donné? Et dernier point, mes chers frères, nous devons apprendre également à parfaire l'entente de la société dans la communauté. Nous sommes une petite communauté de musulmans à l'île de la Réunion. Nos parents, nos grands-parents, lorsqu'ils se sont installés sur cette île, que ce soit à Saint-Pierre, à Saint-Denis, à Saint-Louis, quels que soient les quartiers, les villes, la première qualité de nos grands-parents, c'était la solidarité, l'entente, l'amitié, la fraternité. Le commerçant aidait son prochain, le voisin venait en aide à son prochain. Comme on dit en créole, on ne cassait pas, on ne mettait pas de peau de banane, on ne faisait pas de mauvais coups derrière le dos de notre prochain. Ce sont là des valeurs universelle des valeurs de l'islam, c'est par cet intermédiaire qu'Allah Ta'ala entre autres a accordé la bénédiction, la baraka dans la vie de nos parents. Lorsque le prophète dit que les musulmans, c'est comme une construction, yashuddu ba'dhum ba'dha, ils se soutiennent mutuellement. Mes chers frères, nous parlons souvent de nos relations avec ceux qui ne sont pas musulmans, mais au sein même de notre communauté. Lorsque nous voyons, comme on a dit tout à l'heure, des parents qui abandonnent leurs parents à eux dans des maisons de retraite, lorsque nous voyons des jeunes qui ne pensent même plus à faire salam à leurs aînés, lorsque nous voyons des gens qui fréquentent une même masjid, c'est pareil dans toutes les villes, qui ignorent leurs frères musulmans, qui snobent leurs prochains, lorsque nous arrivons à ce stade où la mahabba ne passe plus dans les membres d'une même famille, alors assurément, il y a un manque d'entente dans la communauté. Et notre prophète, alayhi salatu wassalam, nous a montré, nous a donné les recettes pour que l'entente soit parfaite de la communauté. Il faudrait arriver à un point où nous avons des relations correctes avec tout le monde, des relations sincères, uniquement pour faire plaisir à Allah Ta'ala. Cela veut dire que ce ne sont pas des relations par intérêt. D'accord ? Également de nos relations, je ne regarde pas les défauts de mon prochain. Je fréquente mon prochain pour Allah, parce que c'est quelqu'un qui a iman dans son cœur. Parce que si nous devions être parfaits pour que les gens nous fréquentent, alors assurément, personne ne nous fréquente. Également, pour arriver à cette symbiose de la société, ce kamalul iman, cette perfection de la foi qu'on aime uniquement pour Allah, on fréquente les gens uniquement pour Allah, par amour pour Allah, il faut enlever de notre cœur toute présence de jalousie, de mauvaises pensées, de mauvaises intentions, de rancune, car le prophète nous a enseigné que le musulman ne garde pas rancune dans son cœur, même si quelqu'un l'a fait du tort. Et une des méthodes pour amener la mahabba dans la société, dans la communauté, et donc le prophète a dit, je fais qasam par Allah que vous n'entrerez jamais au paradis tant que le iman n'entrera pas dans vos cœurs. Et jamais le iman n'entrera dans vos cœurs tant que vous n'aurez pas l'amitié entre vous. Je vous montre une action qui amènera la mahabba entre vous. Afshu salam abaynakum. Faites le salam. Et ce salam doit être fait envers les gens que nous connaissons, envers les gens que nous ne connaissons pas, pour qu'il y ait une amitié unique dans la communauté. Mes chers frères, il faudrait arriver à un point où lorsque je fais salam à mon prochain, je peux sourire. J'ai de l'amour dans mon cœur pour ce prochain et j'enlève toute mauvaise pensée de mon cœur. Alors, c'est dans ce but que nous réunissons, bi'idhnillah, ces jeunes pour faire passer ce message, ces valeurs universelles de l'islam. Alhamdulillah, cette année, nous avons l'honneur de recevoir un intervenant qui vient de très loin. Alors, ces programmes seront accessibles à tout le monde. Il y aura le grand programme de ce soir après la Salatul Maghrib. Il y aura également demain dimanche le programme pareil après la Salatul Maghrib. Et enfin le troisième grand programme qui sera tenu, fait par notre invité, sera le programme de clôture du dimanche matin qui sera fait à peu près après le Ishraq jusqu'à vers 9h, à peu près 9h30 voire 10h. Et entre temps après la Salatul Asr, il y aura des mini-programmes qui seront faits par les ulama de notre ville. Et ces trois grands programmes seront également accessibles à nos sœurs, que vous connaissez les modalités pour accéder à la madrasa. Donc nos sœurs également pourront suivre ce programme. Nous demandons à Allah Ta'ala d'accepter nos efforts, de remplir nos cœurs de sincérité, de nous accorder la constance, l'istiqama, que les objectifs de ce rassemblement soient atteints, qu'Allah y renforce le iman de nos cœurs, dans le cœur de nos jeunes, de ces jeunes qui seront les parents de demain, qu'Allah ramène la mahabba, la mawadda, l'entente parfaite de la communauté de l'île de la Réunion, les musulmans de la Réunion, mais également les musulmans du monde entier, qu'Allah Ta'ala nous accepte nos efforts et nous donne la possibilité, comme on l'a dit, de concrétiser ces objectifs. Et nous rappelons que l'Irlande qui est fait qu'après la salat, c'est-à-dire après la prière de Jum'a, les élèves iront dans leur chambre récupérer leurs affaires pour la compétition sportive, d'accord, dans la discipline, dans le respect des règles, bien sûr. Ensuite, ils suivront les accompagnateurs respectifs de leur ville, de leur quartier, et là, ils iront donc vers leur bus. Qu'Allah Ta'ala nous accepte et accepte nos efforts. Jazakumullah khair.